histoire. Deux évasions ont été signalées vendredi dernier dans les prisons de Kalemi dans la province d'Itanganyika et de Kasangulu dans la province du Congo central. Ces évasions sont intervenues deux jours après celles de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Répondant à une question d'information à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice a reconnu des défaillances des services commis à la sécurisation et à la gestion de ces prisons. Comment analyser cette situation? C'est la question du débat et nous en parlons avec Dieudonné Mwenze, il est député honoraire et communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir honorable Dieudonné Mwenze.
Bonsoir Guimaté.
Maître Rufin Louko, il est avocat et chercheur en droits humains. Bonsoir Maître Rufin Louko.
Bonsoir Maître Guimaté, bonsoir à tous.
Et lui, il va nous rejoindre, c'est Maître Onésime Ndoudi, il est président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plusieurs évasions ont été enregistrées la semaine dernière dans certaines prisons de la RDC. Kinshasa, Kalemie et Kasangulu sont concernés. À Kasangulu, par exemple, 68 détenus sur les 74 pensionnaires de la prison centrale située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kinshasa se sont évadés vendredi 19 mai vers 1h du matin. Tenez écouté pour les détails.
D'après le député national Jean-Claude Wimbay, qui l'a annoncé à Radio Capi, les évadés ont simplement cassé le portail de la prison avant de s'échapper. Ils étaient au nombre de 74, rapporte l'élu des Kasangulu, ajoutant que les 6 autres détenus n'ont pas pu s'enfuir à cause de la détérioration de leur état de santé. Jean-Claude Wimba déplore cependant le fait que cette mission carcérale de Kasangulu est devenue un mouroir pour les prisonniers, soulignant que cette évasion est la première du genre que vient de connaître cette prison. À Kalemie, le même vendredi, 14 prévenus se sont évadés dans la matinée du cachot de la police nationale congolaise. Un seul d'entre eux a été rattrapé. Selon les sources sur place, les prévenus ont réussi à tromper la vigilance du policier commis à la garde du cachot. Ils l'ont invité à dégager les déchets qu'ils ont accumulés dans un coin du cachot et en ouvrant la porte, le policier de garde a été surpris par une bousculade musclée des prévenus qui l'ont projeté par terre. Le commissaire provincial de la police, le général Jean-Yves Moukaya, qui a livré cette information, a indiqué que tous les prévenus ont réussi à prendre la poudre d'escampette. Rappelons que dans la même semaine à Kinshasa, des milliers de prisonniers se sont évadés de la prison centrale de Makala, rapportent plusieurs sources sur place. Le gouvernement congolais accuse les adeptes de Nimona Semi d'être à la base de cette évasion massive. Face à cette situation, le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, reconnaît des défaillances des services de l'État commis à la sécurisation et à la gestion des prisons de Makala et de Kasangulu. Il a reconnu dans son explication du vendredi 19 mai dernier, devant l'Assemblée nationale, sur les évasions enregistrées à la prison centrale de Makala à Kinshasa et à celle de Kasangulu au Congo central. Devant les députés, Alexis Thambwe Mwamba a également promis des sanctions au niveau élevé des responsabilités une fois que l'enquête sur ces évasions sera bouclée.
Merci Kelly Nkouté, Dieudonné Mwenze. Je rappelle que vous êtes député honoraire et communicateur de la majorité présidentielle. Dans un espace de deux jours, trois évasions se produisent dans les prisons de la RDC, dont celle de Makala, considérée comme étant la mieux sécurisée du pays. Votre analyse.
Merci pour la question. Je vous dis sincèrement que ce qui est arrivé la semaine dernière est bien triste. Guimaté, vous savez, la sécurité des personnes doit être la préoccupation de tout dirigeant dans un pays. Mais il se fait qu'aujourd'hui, cette préoccupation est en train d'être battue en brèche par l'insécurité que nous voyons par-ci, par-là, à travers le pays. Avant de parler de l'insécurité dans les prisons de la République démocratique du Congo, vous le savez bien, la sécurité des personnes libres est de temps en temps menacée. Que ce soit à l'est du pays, un peu au nord de l'ex-Katanga comme province, aujourd'hui on parle du centre du pays avec les deux Kasaï. Même les personnes libres, les Congolais libres sont toujours menacés par cette insécurité qui est en train de menacer le pays à tout instant. l'instant, mais aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est de constater que cette insécurité est en train de pouvoir toucher même les prisons, c'est-à-dire les endroits carcéraux, et cette insécurité qui touche les prisons est en train d'aggraver davantage l'insécurité des personnes libres, des Congolaises et Congolais qui sont libres aujourd'hui. Donc, d'emblée, il faut dire que ce qui est arrivé la semaine dernière est vraiment anormal, est à déplorer, mais comme nous avons suivi le gouvernement, vous savez, moi je vais parler en tant qu'acteur politique, même communicateur de la majorité présidentielle, mais le gouvernement a eu des mots justes pour justifier ce qui est arrivé, d'abord à la prison centrale de Makala, et puis un peu dans les autres prisons, comme à Kasangoulou, dans le Congo central, et comme à Kalemie, dans le Tanganyika, la province du Tanganyika actuelle. Donc, c'est une situation déplorable, mais une situation qui a été attribuée à une défaillance du dispositif sécuritaire, que ce dispositif soit à Kinshasa, à Kasangoulou ou à Kalemie.
Voilà, parce que vous parlez de la défaillance des services commis, n'est-ce pas, à la sécurisation de ces prisons. Des évasions massives sont récurrentes en RDC, on en parle depuis toujours. Et lorsque le ministre de la Justice parle justement de ces défaillances des services chargés de sécuriser et de gérer ces prisons, n'est-il pas lui-même en train de se remettre en question, parce que à beaucoup d'égards, n'est-ce pas, ces services dépendent de lui?
Non, je crois qu'il faut préciser la chose, surtout pour l'opinion et pour ceux qui nous suivent. En principe, les prisons, je parle des prisons en général, je sais que ce qui est arrivé à Kasangoulou, il s'agit d'une prison. Ce qui est arrivé à Kalemie, c'est un cachot de la police. Mais jusque-là, il ne s'agit pas encore des prisons centrales, à part la prison de Makala. Je crois qu'il faut relativiser les choses et faire la part des choses également. Le ministre qui a en charge la justice, et il a un peu beaucoup plus la charge de l'administration des prisons. C'est-à-dire, dans une prison, vous avez l'aspect d'abord de l'administration. Cet aspect d'administration concerne directement le ministère ayant en charge la justice, secondé bien sûr par le PG, le procureur général de la République et toutes les autres institutions de cours et tribunaux. Mais vous avez l'aspect cette fois-là sécuritaire de ces endroits. Cet aspect sécuritaire est en charge du ministre ayant la sécurité dans ses attributions. Donc ici, il s'agit d'une matière transversale où vous pouvez facilement voir qu'il y a deux ministères essentiels qui sont concernés par la question. Et là où nous sommes, je crois qu'il ne faut pas parler beaucoup plus de l'administration. Peut-être que l'administration a joué pour que l'insécurité puisse avoir lieu dans ces prisons, mais je crois que nous sommes d'abord dans un cas qui est facilement saisissable. C'est le cas de défaillance ou de dysfonctionnement de l'aspect sécuritaire.
Et donc vous distinguez l'administration de la sécurité. Le directeur de la prison centrale de Makala a révélé, c'était hier, que lors de l'évasion de mercredi dernier, la police commise à la garde de la prison n'a ni appelé les secours, ni répondu à ces appels, donc aux appels du directeur de cette prison. Comment peut-on analyser l'attitude de ces éléments de la police? C'est dû aussi à la défaillance
C'est ce que j'ai dit, ça rentre dans la ligne droite de la défaillance et du dysfonctionnement. Il n'est pas normal qu'une haute prison qui doit être sécurisée, comme la prison de Kasapa, centrale plutôt de Makala, ne soit pas sécurisée de manière suffisante. Je crois que là, il y a un problème réellement de dysfonctionnement. Vous savez, il doit y avoir
du ministère de l'Intérieur.
Du ministère de celui qui a en charge l'aspect sécuritaire.
Le ministère de l'Intérieur.
Oui, en principe, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais là, il ne faut pas faire aussi la part des choses. Nous ne disons pas d'emblée qu'il s'agit de la responsabilité directe du ministre de l'Intérieur, mais il s'agit de la responsabilité d'abord de ses services, puisqu'en principe les ordres peuvent être donnés, mais à un certain niveau il peut y avoir défaillance pour que ces ordres ne soient pas observés de manière convenable. Je crois que là il y a un problème. Et, s'il vous plaît, je voudrais chuter. Il y a un problème de la sécurité. Nous ne pouvons pas comprendre que pour une prison qui doit être hautement surveillée, comme la prison centrale de Makala, que l'on puisse avoir des éléments, puisque là, moi, je suis en train de m'interroger. Je vois généralement le nombre de militaires, de policiers qui sont autour de cette prison. Je me demande si à cette heure-là,
tous ces éléments étaient présents. Puisqu'il faut s'interroger. Et je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a des piquets régulièrement qui sont placés soit dans le camp Kokolo, soit du côté de la police d'intervention rapide, pour que chaque fois qu'il y a appel, que ces piquets puissent aller répondre. C'est ça le terme technique.
Les piquets.
Mais curieusement, je me rends compte qu'il doit y avoir des défaillances à ce niveau-là.
Brièvement, il y a des observateurs qui avaient dénoncé le fait que, alors que les enquêtes n'avaient pas encore commencé, et déjà les ministres de la justice désignaient les coupables, Bundou, Diakongo. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que cette démarche est une diversion?
Non, vous savez, j'ai toujours compris personnellement que le gouvernement est en train de gérer la chose publique de manière responsable. Donc, s'il y a une question sur un phénomène comme celui-là qui concerne l'évasion de prisonniers, à une question de savoir où est venu le mouvement pour sécuriser la prison et les prisonniers, je crois que le ministre a pris ses responsabilités en main pour dire que, dans un premier temps, sur base du rapport qu'il venait de recevoir ce matin-là de mercredi, tout était en train d'indiquer qu'il s'agissait d'une force extérieure constituée essentiellement des éléments de ce mouvement BDM ou bien Bundou Diamayala.
Merci. Maître Onésime Ndoudi, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes le président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers. Trois évasions en 10 jours, comment vous comprenez cela? Vous qui êtes, n'est-ce pas, habitué à aller visiter les prisonniers, vous qui êtes censé connaître bien cette prison, trois évasions, en fait les prisons de la RDC, trois évasions en 10 jours, comment vous expliquez cela?
Comme l'honorable est en train de dire, ici c'est un problème sécuritaire, puisque les conditions carcérales sont ce qu'elles sont et que les services de sécurité sont défaillants dans toutes nos prisons. Ce n'est pas la première fois. Imaginez une fois sur ce plateau, quand Gédéon Kyungu s'est évadé de la prison de Kasapa. C'est sur ce plateau, j'ai pu dénoncer quand l'ex-gouverneur Moïse Katumbi demandait à celui qui aurait rencontré M. Gédéon il y a une prime. J'ai dit, mais pourquoi depuis tout ce temps-là, la service de sécurité ne s'est pas organisée pour pouvoir mieux payer les gens qui sont commis à la sécurité des établissements pénitentiaires, okay, de donner de chercher à récompenser celui qui aurait rencontré un évadé. Non. Il faut être prévoyant quand on gouverne. Il faut prévoir les choses. Nos prisons ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce sont déjà des prisons qui sont dans des états de délabrement très avancés d'ailleurs. Et la promiscuité à l'intérieur de la prison, tellement qu'il y a surpeuplement carcéral, cet étouffement-là, et ceux qui sont commis à cette sécurité-là, ils sont dans quelles conditions?
Et donc, au-delà des problèmes sécuritaires, il y a aussi les conditions difficiles dans lesquelles vivent les prisonniers qui peuvent expliquer ces évasions récurrentes.
Mais, monsieur le journaliste, toute personne humaine, notre constitution garantit qu'un détenu doit être gardé dans des conditions humaines. Mais les conditions sont gardées, les prisonniers de la RDC, c'est inhumain. Et tout celui qui est dans cette condition cherchera à trouver de meilleures conditions de vie. Et s'il n'est pas dans les bonnes conditions, si l'occasion est permis de s'évader, il va s'évader.
Maître Ndoudi, ces évasions récurrentes ne posent-elles pas la problématique de la gestion des prisons en RDC par l'État congolais? Une privatisation de la gestion pourrait-elle être envisagée?
Merci, monsieur le journaliste. Depuis plus de 10 fois, c'est déjà une préoccupation pour moi. Même l'actuel ministre de la Justice, je l'ai rencontré personnellement pour pouvoir lui dire si possibilité, les partenaires de la RDC, du ministère de la Justice dans le domaine pénitentiaire, si possibilité de privatiser la gestion de services pénitentiaires en RDC, puisque l'État est incapable.
Est-ce qu'il y a des exemples à travers le monde?
Oui, à Singapour, où j'ai étudié, Les prisons sont privatisées. Ce n'est pas l'État qui gère les prisons. Et dans beaucoup d'autres États, ça dépend des relations que l'État traite avec ses partenaires dans tel ou tel domaine. À Singapour, les services pénitentiaires sont gérés par des privés, les partenaires de l'État.
C'est un endroit tellement stratégique que vous pensez que l'État peut facilement céder ça au privé?
Bon, chez nous, nous savons que dans nos prisons, on ne sait pas catégoriser les prisonniers. Tous les prisonniers, même les délinquants primaires, même les criminels, même les détenus politiques, sont mêlés dans une même établissement pénitentiaire. Voilà pourquoi l'État a des difficultés de pouvoir privatiser les prisons. Mais si nous avons un État responsable, il peut répartir les prisons. Prenons par exemple la prison centrale de Makala, avec 8263 détenus. Mais il n'y a que 2000 condamnés. Nous devons aussi faire la part des choses qui est prisonnier et qui ne l'est pas. Celui qui a détention préventive n'est pas prisonnier, il est présumé innocent. L'État doit construire des maisons de détention pour pouvoir garder ceux qui sont encore en détention préventive. Et les condamnés qui sont appelés prisonniers seront mieux gérés par rapport... Nous avons aussi une faille.
Voilà.
Dans les services pénitentiaires.
Parce que vous évoquez cela, il y a des experts qui ont toujours dénoncé ce système carcéral dans lequel on compte plus des prévenus que des condamnés. Et pour mettre fin à cela, il y a une proposition de révision de la loi relative au système pénitentiaire qui avait été initiée à l'époque au Sénat. Et où en est-on avec le processus d'adoption de cette loi?
Cette loi est en souffrance au Sénat, mais elle n'est pas la première. Dernièrement, j'avais dit depuis 2006, à l'époque du gouvernement Kizenga, avec Georges Misai, comme ministre de la Justice, nous avons travaillé, à l'époque j'étais encore au FIP, nous avons travaillé sur ces projets. Mais depuis que nous avons aussi une difficulté, la continuité des affaires de l'État. Quand un régime, un gouvernement tombe, le gouvernement qui remplace croit que tout ce que ses prédécesseurs ont fait était diabolique, qu'il faut recommencer tout à zéro. Au lieu de continuer ce projet, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes. Même le projet initié, nous avons aussi travaillé avec le ministre Luzolo dans ces mêmes projets, mais après lui, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parlait plus. Le projet de loi qui a été initié est en souffrance aujourd'hui.
Au Sénat.
Au Sénat. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai demandé, j'ai écrit au conseil des ministres, aujourd'hui en fonction, le conseiller en détention, s'il peut mener des démarches pour que cette loi-là soit adoptée et promulguée. Ça pourra aider les services pénitentiaires.
Merci, Maître Rufin Louko, avocat et chercheur en droits humains, des évasions récurrentes. Votre analyse par rapport à ces phénomènes?
Non, mais c'est dommage, c'est dommage. Comme les gens ne peuvent pas démissionner, il faut qu'on révoque les gens. Il faut qu'on sanctionne. Vous imaginez, la capitale est infestée par plus de 2000, 3000 criminels qui ont pris le large de la prison centrale. Parmi eux, des criminels dangereux, des violeurs sexuels, des assassins, des voleurs à main armée, et bien plus encore. Il y a même, si on peut parler, de ceux qui peuvent d'une manière ou d'une autre avoir été condamnés dans les procès des assassins du chef de l'État. Donc, il y a parmi eux des criminels dangereux qui sont dans la ville. Quel est le sort de nos magistrats maintenant qui les ont condamnés? Leur sécurité, les juges, les inspecteurs, les policiers qui les avaient arrêtés, les familles qui avaient dénoncé. S'il vous plaît. Rappelez-vous que je salue les collègues avec qui on est sur le plateau. Nous étions avec lui dans l'émission lorsque vous rappelez d'ailleurs les altercations entre moi, porte-parole du ministre de la Justice et conseiller juridique, et le gouverneur du Katanga par rapport au laxisme de l'administration provinciale du Katanga pour que plus de, à l'époque c'était 900 personnes se sont évasées de la Kassa. Non, s'il vous plaît. Vous vous rappelez qu'il y a eu des états généraux de la justice ici. C'est dommage de vous rappeler qu'aujourd'hui, après les états généraux, rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Alors là, c'est maintenant la recrudescence. Prison centrale, Makala, parti. Kasangoulou, parti. Kalemi, parti, les gens. Donc, la série va continuer. Il faut qu'on sanctionne. Rappelez-vous qu'il y avait, à Makala, le directeur de la prison était un civil, un agent de service de renseignement. Il a fait environ 10 ans là-bas. Pour des raisons, je ne sais pas quoi, on l'a arrêté pour mettre un militaire. Il y a un militaire, maintenant un colonel, et les évasions. Maintenant, lorsqu'on dit que non, le directeur a donné des précisions, que non, il a appelé la police ou la garde de la prison, ils n'ont pas répondu. Mais les assaillants ont neutralisé la plupart. Nous avons perdu beaucoup de gens à la prison. La prison était protégée, elle n'était pas vide. Elle était protégée, donc les assaillants ont neutralisé tous ceux qui gardaient, ou la plupart. Alors, maintenant vous allez appeler qui ? Les gens sont neutralisés. Donc s'il vous plaît, il faut qu'on sanctionne.
Mais que,
nous ne nous laissons pas respecter par le monde entier parce que chez nous, l'impunité, vous voulez qu'on en parle dans quelle langue ? L'impunité, il faut qu'on sanctionne. Il y a des responsables, mon Dieu. Il y a eu des morts, il y a eu des évasions. Et comme toujours, tout le monde se justifie. Tout le monde se défend, tout le monde se défend. Nous l'avons toujours dit, l'immeuble s'est écroulé à Kasavubu. Jusqu'à aujourd'hui, qui a été sanctionné, qui a été condamné ? Donc ça va continuer comme ça. L'impunité, la justice, mon Dieu, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on sanctionne.
Maître Ruffin, logiquement, ce qui s'est passé à Makala devrait, n'est-ce pas, servir, être utilisé comme alerte. L'autorité devrait s'en inspirer pour prendre des mesures afin de prévenir un éventuel effet des contagions. Mais cela apparemment n'a pas été fait, sinon il n'y aurait pas eu évasion à Kasangoulou et à Kalemi. Donc vous estimez que tout cela est lié à ces laxismes-là et qu'il faut, nécessairement sanctionner.
Il faut qu'on sanctionne. À la place, au lieu de veiller sur les autres grandes prisons, on a mis une commission d'enquête. Mon Dieu, une commission d'enquête. Vous savez, il ne va pas donner les résultats. Nous savons, commission d'enquête, il y a eu des morts dans la vallée de Roussis, il y a eu un camion, on avait mis une commission. Je peux compter, il y a plus d'environ plus de 50 commissions d'enquête. Aucune n'a jamais donné des rapports. Donc ça veut dire, on a mis à la place une commission d'enquête. Nous savons ce que ça va donner. Donc, au lieu de réveiller les gens, et surtout cette administration pénitentiaire, n'a pas de moyens. On devait déjà renouveler depuis longtemps là. Mon Dieu, comment devons-nous dire ça? La justice doit se réveiller. Le parquet général de la République et le parquet général sont les principaux acteurs qui gardent les prisonniers. Parce que celui qui exécute les peines, n'est-ce pas, c'est le parquet de la République.
Puisque vous évoquez les enquêtes, si à Kasangoulou et à Kalemi, on parle des circonstances et du nombre d'évadés, à Kinshasa, par contre, on ne veut évoquer ni le nombre de personnes qui ont pris la fuite, ni les circonstances dans lesquelles cette évasion a eu lieu. Maître Régifin, vous êtes avocat. En quoi le fait de donner le nombre de personnes évadées et le fait d'expliquer les circonstances dans lesquelles cela a eu lieu pourrait gêner les enquêtes? Parce que c'est cela l'argument utilisé par le ministre de la Justice.
Non, bon, le ministre de la Justice a l'habitude de défier le Parlement, c'est pas la première fois. C'est dommage, je ne vais pas m'hasarder sur ce terrain-là, mais c'était secret des policiers. Tout le monde sait qu'il y avait 8000 otas et tout le monde sait qu'ils sont restés. Secret des policiers. Donc je ne vais pas m'hasarder sur ce terrain-là. Bon, c'est dommage que notre démocratie fonctionne de cette façon-là. Mais sinon, les nombres, ça devient banal et tout le monde sait qui sont restés, combien sont partis, tout le monde sait ça. Le ministre a dit officiellement que non, il s'est évadé 50 personnes et qu'on a déjà arrêté 190. Sur les 50 personnes qui se sont évadées, on a déjà arrêté 190. Bon, tout ça, les gens entendent. Bon, ce n'est pas à moi de consommer ça. Bon, le reste, mon Dieu, ce que nous réclamons, nous, dans le cadre de notre démocratie, de l'administration de la justice, du respect de la RDC, du respect de notre justice, mon Dieu, il y a eu des magistrats qui ont travaillé, qui ont pris des risques de condamner ces gens. Il y a eu des ministères publics, il y a eu des policiers, il y a eu des familles qui ont dénoncé, il y a eu des familles victimes. Donc, le moi est total, le désarroi est total, le problème est total, si ces gens-là doivent rester. Et vous savez, notre code pénal prévoit, code pénal militaire et consort, prévoit que l'évasion, c'est une infraction. Lorsqu'une personne fuit de la prison et qu'on le rattrape, il faut qu'il soit condamné pour cette évasion-là. Alors, on a parlé des 190 qui sont déjà repris. Il y a eu des procès. Pourquoi il n'y a pas de procès? Pour savoir comment ils sont partis. Parce que ce qu'on a repris là, si c'est vrai qu'on a repris 190, c'est les 50. Alors, Si c'est vrai qu'on les a repris, le procès nous dira, pas l'enquête comme on dit, commission d'enquête, non. Le procès de ceux qui ont été rattrapés nous dira qui les ont fait sortir.
Merci.
Alors donc, bref, pour dire tout simplement en conclusion que ce que nous réclamons par rapport à cette problème d'autant de personnes qui ont quitté notre prison centrale, la plus sécurisée, il faut que les dettes soient sanctionnées.
Merci, M.
C'est
Lupin.
Important pour le respect de nos institutions, de notre gouvernement.
Merci, honorable Yedoné Moïse. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud de Kivu. Les défaillances des services commis à la sécurisation et à la gestion des prisons de la RDC sont vraies. Et ce ne sont pas des faits constatés seulement aujourd'hui. Je me demande alors pourquoi l'Assemblée nationale ne s'est jamais donné la moindre peine de suivre ou de constater sérieusement les actions de l'exécutif national afin de mettre de l'ordre dans le secteur pénitentiaire du pays, plutôt que de s'arrêter à des interpellations de ministres. L'Assemblée nationale est aussi responsable de ces évasions.
Oui, honorable Dino Moïse, vous avez été député. Vous n'avez pas fait votre travail comme il se devait.
J'apprécie la question de votre auditeur de Bukavu, je crois Monsieur Robert, si j'ai saisi bien le nom. Je crois que ce qu'il a dit est vrai. Il s'agit d'une question de défaillance sécuritaire ou des dysfonctionnements comme nous avons entendu. Mais au-delà de ça, il faut avouer qu'il y a aussi l'administration qui, depuis un temps, est en train d'être déplorée par le fait que les gens ne sont pas bien administrés. Il suffit d'une occasion pour qu'ils trouvent des...
Mais qui doit réorganiser l'administration?
Oui, c'est ce que
pas,
j'ai dit.
N'est-ce pas le gouvernement?
Tout c'est le gouvernement. Tout c'est le gouvernement. Comme je vous ai dit, il s'agit d'une question transversale.
Avec l'aide
des
parlementaires.
Avec ses partenaires. Donc il faut penser à ce que l'administration soit d'abord en amont bien organisée pour que les prisonniers ne se sentent pas comme des gens qui sont envoyés à la mort en prison. Ce sont des hommes qui doivent vivre de manière plus ou moins digne, même si on nous a dit qu'ils ne peuvent pas être dans un hôtel à 5 étoiles, mais ils doivent quand même vivre comme des hommes avec leur dignité des hommes. Mais aussi, il faut avouer qu'il est en dehors de cette administration, puisque comme vous le savez, chacun a toujours besoin de récupérer ou de rechercher sa liberté. Donc même si les prisons sont bien administrées, les gens seront toujours tentés à aller pour récupérer leur liberté. Donc il faut que la sécurité aussi suive. C'est pour cela que nous disons que ces deux questions doivent être gérées de manière convenable pour que l'on évite ce qui est arrivé. Notre ami de Bukavu a raison. J'ai toujours dit et je persiste, l'Assemblée nationale comme le Parlement en général est là pour contrôler l'action gouvernementale. Donc chaque fois que le Parlement constate qu'il y a une défaillance ou une probable défaillance dans la gestion de la chose publique de la part du gouvernement, il est recommandé que le Parlement puisse devancer les événements au lieu de les subir et chercher à ce que les choses soient organisées normalement. Imaginez-vous aujourd'hui, on nous parle de plusieurs prisonniers qui sont dans la nature, même les plus dangereux, et Maître Riffin, je crois qu'il a dit, il a eu des mots justes, pour déplorer ce qui se passe aujourd'hui et les risques auxquels et les juges et les victimes sont exposés. Mais il ne faut pas toujours qu'il y ait des événements pareils pour que l'on pense comment il faut interroger un ministre, comment il faut poser une question orale avec débat ou sans débat, comment il faut passer à des motions. Je crois qu'il faut toujours anticiper, puisque la situation de l'administration de nos institutions ou établissements pénitentiaires est connue de tout le monde.
Vous remettez en cause l'administration ainsi que le secteur des
sécurités. Ça a toujours été déploré.
Est-ce que ce n'est pas tous les systèmes qu'il faut remettre en cause? Parce que dans son arrêt, la Cour suprême avait décidé que né moins d'un semi soit placé en résidence surveillée. Et vous ne pensez pas qu'on aurait évité ce qui vient de se passer à la prison centrale de Makala si cette recommandation avait été prise en compte?
J'entends toujours ça, mais je me dis ceci, puisque nous l'avons entendu de la part du PGR pour justifier la présence de Némoin Dansemi et dans la prison de Makala. Et bon, pour lui, la résidence surveillée, la mieux pour lui, ça serait la prison de Makala. Bon, je ne sais pas comment ça peut être compris comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que Némoin Dansemi soit en prison ou pas. Si ce qui est arrivé devait arriver, devait arriver. Vous n'allez pas me dire que Némoin Dansemi était à Kasangulu. Vous n'allez pas me dire que Nemanda Semi était à Kalemi, mais c'est arrivé là-bas. Et même à la Kassapa, autrefois, avec Gédéon Tchungu, Nemanda Semi n'était pas là. Je crois qu'il faut coordonner ses actions. Il faudra que l'administration soit placée de manière convenable et que la sécurité suive. Et d'ailleurs, là, je voudrais vous dire...
Et cela est fonction de la volonté politique.
Guimate, oui, je peux vous dire que je suis en train de faire une publication, et je crois nombreux sont déjà informés, sur l'emplacement même des prisons. Moi, personnellement, je pense que des prisons importantes comme Makala, comme Kassapa, comme un peu partout, on ne peut pas les mettre dans les proximités des personnes.
Est-ce que ce ne sont pas les populations qui sont venues s'établir autour de la prison?
Oui.
Parce qu'on dit qu'à l'époque, lorsque la prison avait été édifiée, il n'y avait pas de population.
Oui, mais lorsque les populations viennent, les populations ne viennent pas d'elles-mêmes.
Merci.
Les populations ne viennent pas d'elles-mêmes. C'est comme à la Kassapa, les populations viennent avec les services de l'État. Et lorsque les populations viennent, il est important que l'on puisse déplacer les prisons pour que ceux qui sont commis à la garde de ces prisons se sentent réellement dans le service et ne puissent pas s'adonner à l'ambiance des cités.
Merci, Maître Onésime Ndoudi. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Kindu.
C'est Augustin Katanga Wakboy depuis la ville de Kindu au Maniema. Dans un pays normal, le ministre de la Justice devait démissionner. Lui qui a le pouvoir, qui reconnaît la défaillance des services de sécurité qui sont commis à la garde des prisons. Voilà, on vient de donner raison à l'opinion qui décrit la mauvaise gestion de toutes nos prisons à travers les pays, caractérisée par les éléments ci-après. La surpopulation dans les maisons carcérales, la rupture de la nourriture, l'absence de soins médicaux, l'insalubrité des prisons. Pire, quand le ministre de la Justice avait traité les gens des idiots, confondant la surpopulation carcérale au nombre d'habitants d'un pays.
Oui, Maître Ndoudi, vous êtes parmi les personnes qui sont, n'est-ce pas, habituées à aller visiter les prisonniers. Est-ce que vous pouvez nous parler, profitant, n'est-ce pas, répondant à cette question, vous nous parlez, vous nous relatez les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers en RDC?
Si j'arrivais à vous dire les conditions que vivent les prisonniers en République démocratique du Congo, tu vas pleurer. Nos prisons sont des mouroirs. Même si aujourd'hui, il y a un moratoire dans notre pays et la peine de mort, mais ils sont déjà... Quand on te place déjà à Makala ou dans telle autre prison, tu es déjà condamné à mort.
Donc vous êtes dans les couloirs de la mort.
Tu es dans les couloirs de la mort. Que tu sois prévenu ou condamné, si tu te retrouves déjà dans une de nos établissements pénitentiaires, tu es déjà condamné à mort. Tu es appelé à la mort. Puisque tel que venait de dire notre interlocuteur ici, dans l'équipe de Kindu, regardez la légèreté avec laquelle le ministre de la Justice est en train de gérer ce dossier. C'est comme Maître Rissel, vous venez de le dire. Il parle de 50 personnes. Mais c'est la commune de Selimbao qui venait d'arrêter 190 quelques personnes. Sans compter toutes les autres communes de la ville de Kinshasa. Alors, au juste, c'était combien? Le ministre, le porte-parole du gouvernement, a déclaré qu'il n'y a pas 2000 personnes dans la prison centrale de Makala. Je te confirme si haut. C'est 8263 détenus dans la prison centrale de Makala. Une prison construite pour la capacité de 1500 personnes. Est-il qu'en RDC, la culture d'honorabilité n'existait pas? Le ministre devait démissionner. Mais voilà l'arrogance avec laquelle il parle devant les députés. Bon, ils ont raison de le faire puisque nous avons aussi des parlements qui sont défaillants. Puisqu'on ne sanctionne personne. Un tel ministre, même si lui-même ne démissionne pas, les parlements, il faut qu'une motion de défiance contre ce ministre. Il n'est pas dans son premier, ce n'est pas sa première fois de mépriser la représentation nationale. Quand il était ministre des Affaires étrangères, pour les deux problèmes de l'armée rwandaise à l'Est, à l'époque, c'est Vital Kamerhe qui était le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il n'a-t-il pas dit?
On ne va pas personnaliser les débats. Hein?
On ne personnalise pas les débats, mais c'est lui le ministre des tutelles. C'est lui, les prisons sont à sa charge. Vous venez d'évoquer l'arrêt de la Cour suprême. demanda à la justice congolaise de placer Némouan dans Semi en résidence surveillée. Mais aujourd'hui, vérifiez un peu les dictionnaires. Si la prison est réellement une résidence où quelqu'un peut rester pour qu'on le surveille. Non. Même si je regrette.
C'est pas ça le débat des juristes. Il y en a qui pensent que la résidence surveillée, c'est le juge lui-même qui détermine, qui définit. Et si le juge définit, s'il estime que pour Némouan Assemi, la résidence surveillée, c'est la prison centrale, ça dépend du juge, n'est-ce pas, qui prend la décision.
Mais c'est le journaliste, parce qu'on n'a pas la réussite. Est-ce que. La Cour suprême a demandé que Némouan Assemi soit placé en résidence surveillée à la prison centrale de Makala. Est-ce que la prison centrale de Makala, c'est une résidence? Que quelqu'un doit rester pour qu'il soit surveillé? Non. Non. C'est, les jeux de mots ici, c'est pour pouvoir chercher à se protéger par rapport à ce qui s'est commis. Les gens dans les prisons en RDC, les conditions sont inhumaine et dégradante.
Et donc, les gens n'y vont pas pour être rééduqués,
non.
Mais ils y vont pour se radicaliser davantage.
L'oisivité qu'il y a dans les prisons, il n'y a aucune occupation. Les prisonniers sont là.
Merci.
Il ne faut rien.
Pourtant, il y a un budget pour ces prisons, toutes ces prisons à travers le pays.
Des budgets minables.
Merci. Maître Richard Louko, il y a aussi une question pour vous. Elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. À mon avis, la responsabilité de ces évasions ne revient pas seulement aux services commis à la sécurisation et la gestion des prisons en RDC, mais aussi du gouvernement qui ne met pas les moyens conséquents pour la sécurisation de ce qu'on appelle prison dans ces pays. Je pense que c'est au gouvernement de disposer un budget important pour la gestion de ces prisons et le renforcement des capacités de tous ces services, car les conditions d'incarcération dans nos prisons ne respectent pas les normes. Et dire aujourd'hui que ces défaillances, ce sont les services commis à la sécurisation de ces prisons, c'est fuir ses responsabilités.
Maître Rufin Louko.
Bon, tu vois maintenant, même les auditeurs peuvent réagir comme ça. Combien de fois avoir à tort réclamé qu'on puisse réajuster vers la hausse les budgets de la prison. Ça n'a pas été fait, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, et voilà la conséquence. Et lorsque nous disons que vous chassez de la tirée des vieux galopes. Si nous disons qu'il y a une responsabilité, que quelqu'un doit être sanctionné, une, deux ou trois responsables, il faut qu'on les fasse. Bon, là, les co-débatteurs ont dit que il a été ordonné ou arrêté par la Cour suprême que non, le mandat semi doit être en résidence surveillée. C'est la loi. Les députés, lorsqu'ils sont arrêtés, ils ne peuvent pas être en détention. La loi parle des résidences surveillées. Et c'est une jurisprudence abondante et solide de la Cour suprême. Les députés, lorsqu'il est arrêté, il n'entre pas en prison jusqu'à sa condamnation. Il va être en résidence surveillée. La résidence surveillée, c'est pas la prison. C'est une résidence autre que la prison. Elle est surveillée. Et peut-être, voilà la responsabilité. Si même on a été dans une résidence surveillée à Gombe, à Limete, à Mongafula, à Mangaliema, il aurait dit peut-être pour le libérer à cette résidence-là et que la prison n'aurait pas dû être attaquée. Si le gouvernement dit que c'est Némouan Assemi, voilà la responsabilité, parce qu'il ne devait pas être en prison. Et bon, d'ailleurs, il a été arrêté pour qu'il soit condamné à flagrance. Où est passée la flagrance? Parce qu'il devait être condamné immédiatement. Il n'a pas été. Bon, tout ça, vous voulez qu'on en parle? Donc, peut-être qu'on en parle plus, pour qu'on ne parle plus, pour que la vérité ne soit pas connue. Dans tout cas d'espèce, Némouan Assemi n'aurait pas dû être à Makala. Maintenant qu'on dit que c'est lui qui a ses agents, ses fidèles sont venus attaquer la prison, voilà la responsabilité, parce qu'il a été là-bas,
Maître
on l'a attaqué, et il y a eu cette vaste et gigantesque évasion.
Maître Rufin Louko, après ces évasions spectaculaires, peut-on espérer, n'est-ce pas, que cette fois-ci le gouvernement pourra réformer le système pénitentiaire de la RDC?
D'abord, avant tout, il faut des sanctions. Il faut que les gens tirent les leçons. Il faut qu'on sanctionne les responsables de cette catastrophe-là. Les pays, la prison Makala n'a jamais connu une aussi grande évasion. Il y a une défaillance à tous les niveaux. Il faut qu'on sanctionne. La responsabilité, c'est important. Si on ne commence pas par la sanction, ça va être la même chose. On recommence, on fera les mêmes, on recommence. Et ça sera la rimaïque et on se fatiguera à crier chaque jour. Il faut donc qu'on sanctionne. Après avoir sanctionné, maintenant,
on fait l'état des lieux au Parlement. Le ministre doit répondre qu'est-ce qui va se passer maintenant. Vous allez encore nous inviter 6 mois, une année après, 12 mois après. Rappelez-vous, vous nous avez déjà invité sur la même question plus de 3-4 fois avec les collègues qui sont sur le plateau. Si cela ne sanctionne pas notre pays mondial de violences sexuelles, la justice militaire a donné, n'est-ce pas, le modèle de sanctionner et la violence sexuelle ont reculé à l'est du pays. On reculé parce que la justice militaire a été l'affaire de lance du gouvernement. Donc, dans la sanction, il y a des vertus pour faire reculer le phénomène. S'il n'y a pas de sanction, les choses vont continuer. Ça sera prison centrale de Bukavu, prison centrale de Kasapa, Buluo, partout. Ça sera la différence de Kinshasa, de Katangulu, de Kalemi, et ça va continuer si l'on ne sanctionne pas. L'arrogance ne va nous emmener nulle part, mon Dieu. Il y a des responsabilités, il y a des gens qui n'ont pas travaillé, il y a des gens qui n'ont pas joué le rôle, mon Dieu, il faut qu'ils répondent. S'ils ne peuvent pas répondre, qu'on les oblige de répondre. C'est ça la démocratie. Nous réclamons en tant que droits humains, en tant que défenseurs des droits humains, et nous savons que la loi nous oblige à réclamer que celui qui n'a pas fait son travail, eh bien, qui lui répondent de la responsabilité, des conséquences qu'ils vont. Parce que vous allez apprendre qu'on a assassiné un magistrat, on a assassiné un juge, on a assassiné un policier, tous ceux qui ont condamné ces criminels-là sont en sécurité maintenant, qu'on pense à eux, mon Dieu, que ça ne soit pas encore demain. Non, c'est-à-dire, en ce qui concerne la situation de nos prisons, mon Dieu, nous avons déjà étudié ces cas suffisamment. On a fait des enquêtes, on est parti la plupart de nos provinces pour voir l'état actuel de nos pénitenciers. Merci. La situation est déplorable, ça fait la honte de la République. Rappelez-vous que nous avions raté Mukulu qui est le président des ADF qui ont massacré les gens à Beni Butembo parce que tout simplement le gouvernement ougandais avait estimé que nous n'avons pas de prison. Et voilà, ils avaient raison. S'il était à Makala, il serait aussi parti. Donc cette question, l'image du pays, on doit redresser la tête, mon Dieu, par rapport à l'état actuel de nos pénitenciers. On a déjà crié, ça fait 10 ans, 20 ans. Si on ne peut pas commencer par la responsabilité, notamment la sanction, par rapport aux fainéants, aux irresponsables.
Merci, maître Ruffin Louko, nous avons compris. Honorable Didier Lomoisé, maître Ruffin Louko insiste sur le fait qu'on doit sanctionner. Mais vous pensez que la sanction seule suffit là où il n'y a pas de volonté politique? Parce qu'on peut chercher à sanctionner, on va chercher des boucs émissaires qu'on va, n'est-ce pas, sacrifier. Et s'il n'y a pas de volonté politique, il y a cette bonne volonté de faire changer les choses, rien ne pourra changer.
Guy Maté, je suis d'accord avec mon co-débatteur sur ce qui concerne les sanctions. Il faut que l'on sanctionne. Je ne suis pas contre, mais je voudrais que l'on vérifie les niveaux de responsabilité. On ne va pas dire simplement que non, il faut sanctionner, mais il faut que l'on fasse cela en fonction des niveaux de responsabilité. Mais comme vous le dites, la sanction ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de repenser le système pénitentiaire congolais dans son ensemble. On va parler aujourd'hui des ministres. Les ministres vont finir par passer. Avant ces ministres,
N'est-ce pas que le système pénitentiaire est un sous-système de tous les systèmes? N'est-ce pas qu'il faut repenser tous les systèmes dans son ensemble?
Il faut repenser tous les systèmes dans son ensemble, puisque le sujet pour lequel vous nous avez invité concerne le système pénitentiaire. J'insiste pour dire qu'il faut que l'on repense aussi le système pénitentiaire. J'ai entendu parler de Singapour. On a privatisé certaines prisons. Oui, mais il faut tenir compte de la position géopolitique et stratégique de notre pays. On ne peut pas penser à privatiser les prisons comme ça, comme si nous étions n'importe quel pays. Le Congo a sa position tout à fait importante qui doit tenir compte de ce qui doit se passer. Mais je dis aussi simplement qu'il y a un problème de défi sécuritaire et je termine par là. C'est un problème de défi sécuritaire dans l'ensemble de notre pays. On doit savoir qu'est-ce qu'il faut pour que l'on puisse assurer la sécurité à ceux qui sont détenus et à ceux qui ne sont pas détenus. Merci. Je prends l'exemple, par exemple, de la France et je termine par là. La France, par exemple, c'est à peu près 4-5 fois notre pays. Mais vous avez combien de militaires, par exemple, en France? Vous avez à peu près le double de ce que nous avons chez nous.
Merci.
Donc, je crois qu'il faut repenser à tout ça et avoir les moyens conséquents pour que la sécurité soit assurée convenablement.
Merci, maître Ndoudi. C'est quoi la solution? Le travail des magistrats ne doit-il pas être, en fait, faire l'objet, n'est-ce pas, des contrôles, hein? Par exemple, chercher à savoir pourquoi tel magistrat ne veut pas fixer tel dossier pour que le prévenu soit présenté devant son juge. Est-ce qu'on ne peut pas aussi contrôler le travail des magistrats? Ça ne peut pas être l'une des solutions.
Oui, la loi a bien défini toutes ces choses.
C'est votre conclusion aussi, parce qu'on sommes à la fin de l'émission.
La loi a bien défini toutes ces choses, puisque les magistrats ont 110 jours pour pouvoir mener ces enquêtes et fixer l'affaire au tribunal. Il y a un problème. C'est le ministère de la Justice qui doit mettre en place les inspecteurs pénitentiaires pour pouvoir vérifier la validité des documents de la détention.
Merci. Maître Rousseau Louko, un mot en guise de conclusion.
Notre pays est un pays respectable. Nous avons une histoire de la justice est très élogieuse. Il faut que nous maintenions le cap et que nous puissions davantage
gérer. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Matundu qui était à la technique. Merci à Alain Irung qui a écouté Berry Franklin Douchaka sous la supervision de Pélé Kipela Mondou. À la présentation, Guy Maté, bonsoir de programme sur Radio Capi.